Radio Okapi.
Belinda Bosuma à la présentation de ce journal.
À la une, clôture hier à Goma de la mission d'inspection de la du commandement en chef d'état-major général des FARDC. Le général d'armée Christian Tiwewe a visité quelques positions des FARDC et a tenu une causerie morale à l'intention des militaires déployés dans cette zone opérationnelle. Élections 2023 en RDC. Les candidats présidents, les partis et regroupements politiques ainsi que la société civile conviés au cadre de concertation qu'organise la centrale électorale dès demain lundi. Vous entendrez à ce sujet Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la CENI. Et puis, province de la Tchopo, lancement depuis jeudi à Kisangani du projet d'incubation des jeunes à l'agrobusiness, projet lancé par l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, à la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIS. Pour en parler, nous recevons le manager de l'IITA, Madame Liliane Togogo. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef d'état-major général des FARDC a clôturé hier samedi sa mission d'inspection et de commandement à Goma avant de s'envoler pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le général d'armée Christian Tiwewe a visité quelques positions des FARDC et a tenu une causerie morale à l'intention des militaires déployés dans cette zone opérationnelle. Dans une vidéo publiée sur le compte X des FARDC, il les a appelés à la discipline et leur a rappelé que le chef de l'État met toute sa confiance en eux. On écoute le général Christian Tiwewe dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Mampingaya FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise.
Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous oublierai jamais, je serai tout le temps avec vous et je viendrai ici à Goma régulièrement pour vous suivre de plus près. Je ne le rappellerai pas ici, mais vous connaissez les déclarations du chef de l'État en ce qui vous concerne. Il compte beaucoup sur vous. Soldats, sois discipliné, sois derrière tes chefs hiérarchiques. Le commandant de ton bataillon est là, le commandant de ta compagnie est aussi là, les chefs des sections, les chefs de peloton sont également là. Moi, je vous reconnais à travers votre discipline et que cette discipline soit maintenue. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Ceux qui ont des téléphones et qui y passent tout le temps, ceux-là ne sont pas des militaires.
Entre-temps, dans la province de la Tchopo, plus de 600 étudiants volontaires sont internés depuis jeudi à l'ICEA Bengamisa pour la formation paramilitaire. Ils sont venus des diverses institutions d'enseignement supérieur et universitaire, aussi bien de Kisangani que de Goma. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, qui les y a conduits en compagnie du vice-ministre de la Défense, reste convaincu que cette première cohorte pilote sera bien formée afin de pouvoir défendre valablement le pays au cas où il serait rappelé par la hiérarchie. On écoute le ministre Muindo Nzangi dans ses propos recueillis par Jacques Mukonkole.
Je vous avais promis hier qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des militaires. Aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais militaires. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas le défendre sans être formé. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. C'est que sur le site ici, si vous allez avoir la bonne formation et toute la formation, vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer, vous allez faire des exercices physiques très 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 complexes. On va vous apprendre la tactique militaire, on va vous apprendre les tirs, les GP, vous allez tirer avec les AK-47, on va tout vous apprendre.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, le président de la jeunesse de Kasindi, une cité frontalière de l'Ouganda, appelle les services de sécurité à anticiper les menaces et tout autre cas de banditisme armé dans la zone. Muindo Kalungero lance cet appel au lendemain d'un cas de vol à main armée accompagné de pillage dans le domicile d'un journaliste de la place. L'un des présumés bandits avait été appréhendé par des habitants du quartier voisin qui l'ont passé à tabac. Il a été sauvé de justesse par la police. Muindo Kalungero relate les faits au micro de Sadiq Aboubakar.
Comme animateur de structure des jeunes, nous avons toujours dénoncé la défensive, c'est-à-dire l'intervention tardive qu'a toujours affiché l'appareil sécuritaire de Kasindi en particulier dans le territoire de Beni d'une façon générale où la plupart des cas, on n'a pas toujours l'habitude d'empêcher l'ennemi à faire quelque chose. On vient toujours constater les faits quand l'ennemi a déjà posé des actions négatives dans la population. C'est pourquoi notre appel aux autorités de la sécurité de l'entité, l'administrateur militaire et à tout ce qui est agent de l'ordre dans la cité de Kasindi, c'est de demander aux autorités de multiplier les efforts, d'être toujours en avant et surtout de multiplier la collaboration avec les jeunes de chaque quartier pour ne fût-ce que voir en amont les situations qui se passent dans chaque quartier.
Restons au Nord Kivu. Créée en 2019, l'école primaire Saint-Jérôme de Butembo était destinée à l'éducation des enfants déplacés venus des différentes localités du territoire de Beni et même de la province de l'Ituri, fuyant le massacre des EDF. Cette école avait atteint un effectif de plus de 200 élèves, tous déplacés, sans compter les enseignants et le personnel administratif. Au début de cette année scolaire, suite à des difficultés de fonctionnement et de la baisse de la qualité de l'enseignement, les autorités scolaires décident de fermer l'école. Quel est le sort de ces élèves et leurs enseignants? Baudouin Muindo Nguka, chef de la sous-division de l'EPST Butembo 2, explique au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Les inspecteurs, dans leur itinérance, ils ont constaté que cette école a de sérieux problèmes de manuels, problèmes de non-prise en charge des enseignants, aux difficultés de fonctionnement. Alors, suite à ces différents rapports des inspecteurs, on a jugé bon que vraiment cette école puisse fermer pour ne pas gâcher l'avenir des enfants. C'est ainsi que les enfants, nous les avons orientés vers 3-4 différentes écoles, primaires publiques. Mais dans le suivi de ces enfants, ils s'adaptent bien. Les enfants n'ont pas assez de problèmes. Déjà même à la fin de la première période, les enfants se sont bien débrouillés. Les enfants sont presque à grande partie enfêlés, vulnérables. Il ne fallait pas, à part ce malheur qui leur est arrivé par la nature, qu'on puisse encore ajouter d'autres problèmes, des sous-qualifications, des enseignements de mauvaise qualité. Les enseignants ont été mis à la disposition de la coordination, qui nous ont promis que dès qu'il y aura des places vacantes dans les unes des écoles catholiques, on pourra faire appel à ces enseignants.
Je vous le disais en titre, la CENI organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et regroupements politiques ainsi que la société civile. Suivons les détails avec le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, dans ses propos recueillis par Alain Rong.
À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contacts permanents avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats président de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 au fleuve Congo Hôtel, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur.
Au Maniema, la Caritas Développement Kindu, avec l'appui du PNUD, vient de former différentes couches de population sur l'approche de la paix et de prévention des conflits en période électorale. C'était dans le cadre du projet d'appui à la prévention des violences électorales pour la cohésion sociale dans la ville de Kindu, dans les territoires de Punia, Kailo, Kibombo et chefferie de Benyasamba et Basongé 1 dans le territoire de Kasongo. Objectif visé, renforcer les capacités des participants afin de favoriser la cohésion sociale et créer un climat apaisé pendant la période électorale et post-électorale. Florence Kiza, reportage.
Durant 6 jours, 50 personnes venant de différentes couches sont formées sur les élections inclusives et apaisées, la médiation électorale et le monitoring des discours de haine. Ils deviennent des acteurs de paix durant le processus électoral dans la ville de Kindu. Un participant témoigne.
Les impressions sont très bonnes parce que je viens d'apprendre beaucoup de cet atelier, beaucoup dans le sens que j'ai appris des histoires que je ne connaissais pas avant et j'ai une nouvelle configuration de comment résoudre, comment prévenir, comment faire pour gérer les conflits qui peuvent subvenir de la période électorale. Dans l'échange que nous avons eu, j'ai beaucoup appris et j'en ai tiré beaucoup de choses pour enrichir le travail que j'ai toujours fait, la sensibilisation des parties prenantes aux élections.
Le directeur de Caritas Kindu exhorte les participants en ces termes, Abbé Stanislas Milabio.
En plus de remerciements, nous voulons aussi vous encourager. Vous encourager dans cette nouvelle religion de la non-violence à laquelle nous vous convions et surtout à ce travail de prévenir tout cas de violence pendant ce temps électoral dans notre ville.
À la fin, chaque participant a reçu son certificat de participation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Parlons à présent du plan local de développement PDL 145 territoires. Aucun ouvrage n'a été réalisé jusqu'à présent dans plusieurs territoires, notamment Walungu au sud Kivu et dans bien d'autres, tels que dans la province du Kasaï à titre illustratif. Pourtant, les fonds alloués aux travaux avaient été bel et bien débloqués pour tous les territoires de la RDC dans ce projet visant le développement à la base. C'est en tout cas ce que dénonce le député national Olive Mudekereza. Dans un point de presse tenu ce week-end à Kinshasa, l'élu de Walungu a également recommandé au gouvernement de réserver un budget additif pour l'entretien des infrastructures construites et de mettre des engins à disposition de la population pour l'entretien des routes réhabilitées. Le député national Olive Mudekereza dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons environ 154 000 km de routes non asphaltées. C'est peut-être, je crois, 10% ou 20%. Je viens de proposer au gouvernement pour dire qu'il faut, à chaque 100 km de route, installer une brigade, c'est-à-dire des engins. Un minimum avec 250 000. On peut même avoir des engins en seconde main, ce qu'on dit second hand. Avoir des bennes, avoir une niveleuse, avoir pelle, un compacteur. À chaque fois, quand il y a un problème, ces engins-là interviennent. Et si on n'a pas ça en permanence, on n'aura rien résolu dans ces pays. C'est des mesures d'encadrement, des mesures institutionnelles qu'on peut prendre. D'ailleurs, moi, j'avais proposé que la gestion de ces infrastructures soit faite par la base. Voilà, aujourd'hui, le 145 n'a pas encore bien fonctionné au sud Kivu. Nous sommes des territoires de Walungu. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas encore vu quelque chose qui est fait. Mais il faut qu'on règle ça aussi rapidement.
Retour dans la province du Maniema. 226 cas de menaces aux défenseurs des droits de l'homme ont été documentés de 2021 à ce jour. C'est le coordonnateur de l'ONG Action Humanitaire pour la Paix et le Développement qui l'a dit hier lors de la rencontre de restitution des assises de Kinshasa sur le projet de la prise en charge holistique des défenseurs des droits de l'homme. Pierre Zachary Lokonga Katako demande aux défenseurs des droits de l'homme de dénoncer ces menaces. On écoute le coordonnateur de l'ONG Action Humanitaire pour la Paix et le Développement au micro de Florence Kizalunga.
C'est la restitution de la formation suivie à Kinshasa sur un projet de la prise en charge holistique des défenseurs des droits de l'homme. C'est Defenders avec AIPA des réhachements. Ça vise les défenseurs des droits de l'homme sous les situations de menace. Après avoir fait un rapport, après avoir publié un rapport, après avoir dénoncé un cas, alors les défenseurs des droits de l'homme est sous menace. En ce moment-là, les fonds doivent les protéger pour les mettre mettre à l'abri de toutes circonstances qui peuvent lui arriver. Depuis que nous avons commencé en 2021 jusqu'à maintenant, les cas qui ont été enregistrés, c'est plus ou moins 226 cas. Mais les cas qui ont été assistés, c'est 72 cas. Les défenseurs des droits de l'homme ne doivent pas rester calmes. Les défenseurs des droits de l'homme doivent dénoncer. Aussitôt que la menace lui arrive, il doit communiquer avec le réseau. En ce moment-là, quand nous recevons l'alerte et à la minute, nous transmettons l'alerte à qui de droit.
Actualité internationale.
L'ancien attaquant ghanéen Raphaël Douamena est décédé hier des suites d'une crise cardiaque lors d'un match de championnat albanais, selon un communiqué de la Fédération albanaise de football. Les ambulanciers présents sur le terrain l'ont transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé à l'âge de 28 ans, a indiqué la Fédération. Douamena a remporté 8 sélections pour le Ghana et était autrefois considéré comme l'une des étoiles montantes du pays, mais a rencontré plusieurs problèmes cardiaques au cours de sa carrière. En 2017, l'attaquant n'a pas pu rejoindre Brighton en raison de ses problèmes de santé et il a finalement déménagé en Espagne. Et puis, le Vatican a annoncé hier que le souverain pontife a révoqué Joseph Strickland, un évêque américain conservateur qu'il avait critiqué à plusieurs reprises sur sa papauté. Joseph Strickland avait été nommé évêque de Tyler au Texas par l'ancien pape Benoît XVI en 2012.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Chopo. L'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, a lancé le jeudi à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani le projet d'incubation des jeunes à l'agrobusiness. C'était en présence des autorités politiques, académiques, ainsi que du project manager de l'IITA, Madame Liliane Togogo. En quoi consiste ce projet? Comment accéder à cette formation d'un mois et demi et quels en sont les avantages? Réponse avec notre invité, Gaylor Onswanda, assistant technique de l'IITA. Il s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Gaylor Onswanda, bonjour. Quel est l'objet de la présence de la délégation, la grande délégation de l'IITA, ici à Kisangani et particulièrement à la Faculté des sciences de l'Université de Kisangani?
Ok, merci beaucoup. Comme vous dites, aujourd'hui nous sommes à Kisangani. C'est pour lancer le processus d'incubation des jeunes en agribusiness. Et l'IITA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Qu'est-ce que vous entendez par l'incubateur?
L'incubateur pour nous, c'est des structures d'accueil des jeunes qui hébergent les jeunes, qui forment et qui accompagnent les postes d'incubation après. Parce que vous pouvez accompagner les jeunes, vous pouvez former les jeunes, mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, beaucoup de ces entreprises disparaissent, meurent, parce qu'il n'y a pas un accompagnement après.
Quel genre d'accompagnement?
Il y a l'accompagnement dans la mise en œuvre même de ces entreprises de jeunes. Puissent développer en fait leur clientèle, leur marché qui s'installe avec les entreprises qui puissent prospérer. Donc il y a l'accompagnement en termes techniques et puis il y a un accompagnement managérial. Et l'IITA est l'assistante technique au sein du projet PEJAB.
Gaylor, quelle est la durée de cette formation?
Ok, la durée de la formation c'est de 1 mois et demi pour la première cohorte et ensuite il y aura les autres cohortes qui vont suivre.
Comment accéder à cette formation et c'est tout jeune intéressé que vous pouvez recruter?
Justement, ce n'est pas n'importe quel jeune on a sélectionné. Il y a un critère. D'abord, il faut être jeune, c'est-à-dire avoir l'âge compris entre 18 et 35 ans. Avoir un diplôme du niveau supérieur, être gradué ou licencié, être motivé, être disponible à suivre la formation pendant tous ces temps prévus par le projet.
Et la formation elle-même, comment sera-t-elle organisée?
Il y aura une première cohorte qui sera formée de 50 jeunes, dont 50% de femmes, qui vont suivre une formation accélérée dans les différents maillons des chaînes de valeur retenus ici à la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kisangani. Et ensuite, il y aura une deuxième cohorte de 50 jeunes qui sera encore recrutée, sera formée, accompagnée dans les différents maillons, afin qu'ils créent leurs propres entreprises dans les domaines agricoles.
Quels sont les domaines de formation que vous avez retenus?
Il y a différents maillons qui sont choisis dans les filières agricoles. Il y a la transformation des manioc, la transformation de la banane, il y a la transformation des différents produits, légumes, fruits. Il y a également l'élevage, la pisciculture. Ce sont là les différents maillons qui sont sélectionnés au sein de ces premières cohortes de jeunes.
Où se fera cette formation? Dans les salles des cours ou sur le terrain?
Il y a deux aspects dans la formation. Il y a les aspects techniques et les aspects théoriques, bien sûr. Pour élaborer, vous comprendrez, vous serez d'accord avec moi, pour élaborer un plan d'affaires, vous aurez besoin d'un cadre idéal pour élaborer un plan d'affaires. Donc c'est certainement dans la salle. Mais les aspects techniques, en ce qui concerne la transformation des produits agricoles par exemple, c'est sur terrain. La production, l'élevage, la pisciculture, c'est sur terrain qu'il faut les faire. Et donc il y a des aspects qui sont pris en compte dans la mise en œuvre du PEJAB.
Mais ce sont des étudiants, ils n'ont pas encore de ressources, mais pas de moyens financiers. Est-ce que l'ITEA prévoit un mécanisme devant permettre à ces jeunes de démarrer leurs activités?
La coordination du projet PEJAB à Kinshasa au sein du ministère de l'Agriculture a élaboré un mécanisme de financement. Donc il y a une collaboration entre la coordination du projet PEJAB et la banque. Ce mécanisme de financement permet à ce que la banque puisse donner des crédits aux jeunes sans garantie. C'est en fait ça la différence aux autres projets qui travaillent dans le même sens que le PEJAB.
Gelo Nswanda, merci.
Merci beaucoup.
L'assistant technique à l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITEA, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rongmouchinj, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.